Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris, une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès.
Bienvenue à tous à cette deuxième soirée des Jeudis des Colibris depuis la rentrée. Donc je vous rappelle, les Jeudis des Colibris, ce sont donc ces soirées à thématiques variées qui ont lieu tous les troisièmes jeudis du mois, ici même à la boutique solidaire de Rochebelle, organisée donc par les Colibris d'Alès. Et avec un programme éclectique hein, qu'on vous a concocté pour cette année, le programme est déjà calé, en tout cas il y a juste des toutes petites finalisations qui sont en train de se faire et on a vraiment de très belles interventions qui sont à venir là sur cette année, donc n'hésitez pas à suivre le programme en vous inscrivant à la newsletter des Colibris. Vous pouvez aller voir sur le blog des Colibris du Gard notamment pour en savoir plus. Et je vous rappelle donc que cette soirée est enregistrée et donne lieu à une émission de radio qui s'appelle Le Chant des Colibris et qui est diffusée sur Radio 16. Vous pouvez donc écouter cette émission à peu près une semaine, 10 jours après la soirée. Vous la trouvez en ligne sur le site radio16.net. Ça s'appelle donc Le Chant des Colibris. La fréquence de Radio 16, c'est 99.2 FM. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Rechid, qui est donc venu de la Drôme et du village de Saillan. Tristan, il était directeur de centre social jusqu'en 2014, et en 2014, c'était les élections municipales. Et là, il s'est passé quelque chose d'un petit peu étonnant dans ce village de la Drôme nommé Saillan. C'est qu'il y a eu une liste participative qui s'est proposée donc aux élections municipales. Une liste sans programme et une liste sans candidat. Et c'est cette liste-là qui a remporté les élections. Depuis, c'est toute une aventure qui a commencé donc à Saillan et c'est ce que va nous raconter Tristan ce soir. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Tristan, je te passe la parole pour que tu nous relates cette aventure formidable.
Alors c'est parti. On va commencer par un petit peu de lecture. Tu peux me passer tes lunettes, s'il te plaît ? Je vieillis, je n'arrive plus à lire sans lunettes. C'est terrible ça, ça vous est arrivé ça, il n'y a pas très longtemps ? Ouais. Ah ouais, bien. C'est une définition de Paul Ricoeur sur la démocratie. Alors ce qui est rigolo, c'est que notre président de la République a été l'assistant de Paul Ricoeur pendant pas assez longtemps, je pense. Mais bon. Alors, c'est un test, et en fait je vais vous lire la définition, et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette définition, vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir si vous voulez, parce que du coup tout le reste ne va pas vous intéresser du tout. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne restez pas. Les auditeurs, c'est pareil, hein, éteignez la radio si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition-là, parce qu'on va parler de ça essentiellement pendant une heure. Alors, est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts. C'est la première partie surtout qui est intéressante. Hein. D'accord ? Donc, est démocratique une société qui se reconnaît divisée. Il faut d'abord se reconnaître divisée. C'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à, c'est pas très bon comme liaison, d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Voilà. Donc si vous êtes pas ok avec ça, vous pouvez y aller. Donc le point de départ, c'est de se reconnaître divisé et reconnaître le fait qu'on n'est pas d'accord a priori et que ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas d'accord avec moi par rapport à tout ce que je vais vous raconter, sinon c'est chiant.
Sinon, voilà. On n'arrivera pas à être en démocratie. Voilà. Quoi.
Merci pour les lunettes. En tout cas, c'est mon point de départ en animation et de considérer que toute démarche participative passe par une première phase qui est une phase où on se met d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on met ça sur la table. Voilà. Et sur cette base, sur la base de ces désaccords, on trouve un compromis, un consensus, un consentement, hein, ça dépend des méthodes que vous voulez utiliser. Mais on se met d'accord, en tout cas ensemble, sur la base de nos divergences, on se met d'accord sur un chemin commun. Voilà. Pour moi, c'est ça, un processus participatif. Alors, peut-être encore vous raconter un truc sur moi, parce que j'aime bien parler de moi quand même un peu.
Je t'en prie.
Alors moi, j'étais directeur d'un centre social avant, ça tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai arrêté. Voilà. Et maintenant, je suis chômeur.
Avec un grand sourire.
Voilà. Alors, je suis un faux chômeur parce que du coup, je passe mon temps maintenant à accompagner l'émergence de listes participatives pour les prochaines élections municipales, qui étaient prévues en 2020. Alors, il paraît que ça sera en 2021.
Ça te laisse un an de plus pour tes tournées.
Voilà. Ils veulent mettre le même jour le scrutin municipal, départemental et régional. Vachement malin comme idée, ça, non? Pour dire que finalement, les élections locales, on s'en fout. Hein? Et qu'on a qu'à tout mettre le même jour. Hein, puisque de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Voilà. Donc, je vous invite à être vigilant, parce que j'ai quand même l'impression, sans rentrer dans une forme de théorie du complot, j'ai quand même l'impression que l'échelon local est en train de disparaître.
Que l'échelon local est en train de disparaître.
C'est ça. Mmh. Et qu'on est dans une phase où c'est peut-être à cet échelon-là qu'on peut sortir de l'impuissance. Et je vous invite à sortir de votre impuissance, comme moi, j'essaye de le faire aussi. Et que peut-être qu'on essaie de nous enlever cet échelon local. Vous avez remarqué que les communautés de communes ont tendance à grossir, les communautés d'agglos ont tendance à grossir, qu'il y a de moins en moins de compétences à l'échelle communale.
Oh oui.
Vous êtes aperçu de tout ça. Hein. Et là, maintenant, on veut mélanger les élections municipales avec les élections départementales et les élections régionales. Voyez. Moi, je me dis que tout ça, ça participe de quelque chose qui ne sent pas très très bon. Voilà, ça c'était pour les mauvaises nouvelles. Alors maintenant, je vais attaquer les bonnes nouvelles parce que je vais vous raconter une belle histoire. Alors, c'est une histoire vraie. Hein. Vous pouvez regarder, hein. Vous pouvez vérifier.
Oui, il faut savoir qu'on peut trouver toutes les informations sur Saillant et sur cette aventure sur Internet. Il y a de multiples vidéos et de multiples informations sur tout ça. Et on invite tout le monde à aller voir Saillant, S-A-I-2-L-A-N-S, ce petit village de la Drôme qui a été un précurseur donc dans l'émergence de la démocratie participative locale.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Saillant dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je vais vous compter comme on est à la radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 sur, allez, on est combien? 12. On est, c'est beaucoup trop.
Non,
hein.
On n'est pas 12. Hein, on est,
12 sur, 12 sur 45, c'est beaucoup trop. Vous êtes pas du tout à la page, Alès.
Non, c'est pour ça qu'on t'a invité. On avait besoin de faire une petite mise à jour.
Il reste 95 personnes dans le monde qui n'ont pas entendu parler de Saillant. Il y en a 12 à Alès, c'est énorme. C'est énorme, alors, c'est énorme, c'est pas du tout possible.
Je te prie de nous mettre à la page
Allez,
le plus
c'est
vite
parti.
Possible.
Alors, Saillant, village de 1200 habitants, on est maintenant 1300. Je vous invite à monter des listes participatives, ça fait grossir du coup la population locale. Hein.
Ah
donc,
oui,
ça, c'est
et depuis
un excellent
vous avez des gens qui sont arrivés, intéressés par ce qui se passait.
On a fait des enfants, on a fait venir des gens, etc. Ça développe plein de choses. Donc, on est 1300 aujourd'hui, à l'époque on était 1200. Et Saillant se situe dans la Drôme, donc on est à 2h17 selon Mappy, d'ici. Et ça se situe entre deux villes un peu plus importantes qui sont Cré et Die. Ouais, alors ça fait un jeu de mots pourri, voilà. ça fait un jeu de mots pourri, Crédit. Mais au-delà de ça, donc on est situé entre Hervé Mariton et la Clairette de Die. Vous connaissez les deux? Hervé Mariton, vous connaissez pas? C'est vrai? C'est intéressant, ça, c'est le Hervé Mariton, c'est le porte-parole, ça a été le porte-parole contre le mariage pour tous pendant toute cette période. C'est un député maire, donc pour vous dire qu'on n'est pas dans le pays de Oui Oui l'ourson, nous sommes dans la communauté de communes de Hervé Mariton. Voilà. Et qu'on est dans la communauté de communes de Hervé Mariton, c'est quand même pas rien. Voilà.
Il y avait du challenge, quoi.
Il y a du challenge. Donc, on est dans ce territoire-là. Et sur ce territoire, je vais mettre un petit chronomètre pour pas déborder parce que je peux tenir 4h15.
Oui.
On m'a dit qu'il fallait tenir un petit peu moins longtemps. Donc, voilà. On s'est entendu sur 4h12.
J'espère que vous êtes bien installé chez vous, dans votre canapé et que vous avez une longue soirée devant vous.
On finit à minuit 45, c'est terminé hein, cette histoire. Donc François était le maire de Saillant avant.
C'était pas trop votre copain, ce que j'ai cru comprendre.
Alors François, c'est juste un maire très classique. Je vais pas donner son nom de famille parce qu'on est enregistré. Faut faire attention maintenant. Alors donc François était le maire de Saillant et François dirigeait son village d'une manière très classique. Je sais pas comment ça se passe à Alès. Vous me raconterez tout à l'heure comment ça se passe à Alès. Chez nous, ça se passait d'une manière très autocrate, très pyramidale, avec un homme qui sait, qui a une vision pour son village et qui prend les décisions. Voilà. Je suis sûr que ça se passe différemment ici. Voilà. Donc François a été élu maire de Saillant et donc a géré sa commune de cette manière-là. Alors ce qui est rigolo, c'est que François, il a été élu à l'époque, il était au MoDem. Je sais pas si vous vous rappelez un truc avec des couleurs orange, vous vous rappelez ? À l'époque, il était au MoDem, et ce qui était à la mode au MoDem à l'époque, c'était la démocratie participative. Donc il s'est fait élire sur le concept de démocratie participative. Moi, je trouve ça drôle. Parce que derrière, il s'est fait botter les fesses par une liste participative, vous voyez ? Donc je trouve ça super drôle. Bon, voilà. Donc, mais effectivement, c'était son deuxième pilier, c'était la démocratie participative. Alors je l'ai déjà dit deux fois, démocratie nana, là. Je vais arrêter de le dire, en fait. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de l'absurdité le fait d'accoler ces deux mots l'un derrière l'autre ?
Non.
Démocratie participative, vous voyez, c'est bizarre. Démocratie, je vous rappelle, non. Pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc là, on parle de gouvernement par le peuple directement. Il y a besoin de rajouter une dimension participative à un terme qui revêt en lui-même toute cette dimension participative ? Donc, je vous invite à réfléchir à ça, puis à vous dire aussi, puis on a inventé plein de qualificatifs à démocratie. Il y a la démocratie représentative, il y a la démocratie délibérative, il y a la démocratie liquide, il y a plein de... Moi, je trouve que ça sent bizarre, cette histoire, quand même, vous voyez ? Un mot qui a tellement de sens, on n'arrête pas de lui rajouter des qualificatifs comme si on voulait en atténuer le sens original, vous voyez ? Donc, allez, je vais le poser ça comme postulat de départ. Nous ne sommes pas en démocratie, messieurs, dames. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez rester d'ailleurs, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, je pose comme postulat de départ qu'on n'est pas en démocratie et que je ne connais aucun pays qui vit aujourd'hui en démocratie dans le monde. Je parle de pays, là, pour l'instant. Ouais, ouais.
Il y a quelques exceptions à l'échelle communale, ou etc. Mais par contre, en termes de pays, effectivement, malheureusement...
Ouais. Alors, je ne peux pas vous prendre vos questions là, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est à la radio et qu'on ne vous entend pas. Et la deuxième chose, c'est que on va se laisser un temps à la fin pour y répondre. Ça vous va ? J'ai jamais dit que j'étais démocratique. Hein. Je vais vous faire un truc très autocratique, très, très descendant. Vous allez voir, ça va être fabuleux. Donc, démocratie participative, je vous invite à considérer que, un, nous ne vivons pas en démocratie. Deux, que démocratie participative et le fait d'accoler comme ça des adjectifs à un terme qui a tellement de sens, c'est que sans doute on veut nous cacher quelque chose. Voilà. Je sais pas qui c'est, mais. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans un pays où il y a une liberté d'expression, effectivement. Nous sommes d'accord. Vous savez, on a souvent, lorsqu'on dit ce genre de choses, on nous répond souvent, mais tu te rends compte, tu vis pas en Corée du Nord, etc. Alors, déjà, je trouve cet argument totalement débile. C'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'il faut pas se poser des questions sur l'endroit où on est. Et deuxièmement, je vous dis encore une fois, j'estime que nous sommes dans un pays où on peut parler, on a une liberté de se réunir, et encore de moins en moins, mais on peut estimer qu'on est encore dans un pays où on a cette liberté-là. Une liberté d'expression et de réunion ne veut pas dire démocratie. Démocratie, c'est encore autre chose, quoi. Et je ne vois pas à quel niveau et dans quels endroits nous serions en démocratie en France. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais je vois pas où.
Donc c'est ce que vous avez tenté de faire à Saillant.
Donc à Saillant, on s'est dit... Bon non, je vais reprendre l'histoire. Donc ce maire qui gère son village d'une manière très autocrate, mais je vous dis encore une fois, comme malheureusement 90% des maires en France, qui gère son village en estimant avoir une vision et en estimant savoir ce qu'il faut pour le village, gère son village pendant 3 ou 4 ans... avec des projets plus ou moins intéressants. Et à un moment donné, il a une idée absolument sublime. Il souhaite implanter un supermarché à 1 km du centre du village.
Donc on imagine le village un peu rustique et joli, et on imagine que ça devait être un projet qui allait dégrader l'environnement et qui rencontrait pas mal de contestations et d'oppositions.
Alors ça aurait pu être ça l'argument, mais c'était pas ça l'argument. L'argument à Saillant, c'est que on a tous les commerces possibles et imaginables à Saillant. C'est très étonnant, on est un petit village de 1200 habitants, mais on a un coiffeur, on a une boucherie, on a une épicerie bio, on a une épicerie pas bio, on a une épicerie pas bio du tout. On a deux boulangers, on a deux bars, on peut vivre en autarcie. D'ailleurs, on vit en autarcie à Saillant. Les Saillançons ne sortent pas de chez eux, d'ailleurs. On reste enfermés.
Ce projet de supermarché aurait mis en péril tous ces petits commerces, quoi.
Et le projet du supermarché était pour nous une sublime idée pour faire péricliter ces commerces qui vivent comme ils peuvent. Hein. C'est pas non plus il y a une saison touristique. Voilà, bien, on n'est que 1200 dans le village, hein, donc c'est pas non plus. Donc voilà. Donc l'idée d'implanter un supermarché à l'extérieur du village nous semblait être une très mauvaise idée. Donc un collectif s'est mis en route. Vous savez qu'on ne peut plus dire en marche. Ça nous a été pris, ça. Donc à chaque fois, moi, j'ai un petit temps de latence et donc j'essaie de prendre maintenant cette espèce de réflexe de dire en route, voilà. Donc ce collectif s'est mis en route. Donc Emmanuel Macron n'est pas du tout venu à Saillant à ce moment-là. Ça n'a strictement rien à voir avec lui. Et s'est mis à essayer d'alerter la population sur le fait que c'était sans doute une très mauvaise idée et que ça allait sans doute avoir un impact très négatif sur notre village. Donc ils ont fait des trucs assez classiques comme faire circuler une pétition. Ça, vous connaissez tous. Voilà ce type de procédure. Donc ils sont allés plusieurs fois sur le marché de Saillant pour aller récupérer des signatures. La seule différence chez nous, c'est qu'il y a 800 signatures qui ont été récupérées. Je vous rappelle qu'on est toujours 1200 dans le village. Hein. Voilà. Donc 800 signatures. Alors pour être plus juste et pour être vraiment juste, le projet était à l'échelle de la communauté de communes, mais de la toute petite communauté de communes dans laquelle on était auparavant. Vous avez vu, hein, ça augmente à chaque fois, on rentre dans un truc encore plus grand. Voilà. Donc à l'époque, on était dans une communauté de communes qui devait rassembler moins de 1800 habitants, je pense. Donc 800 signatures sur un périmètre de 1800 habitants, dont des enfants, dont... voilà. Donc ce qui représente quand même une partie de la population non négligeable. On s'est dit, eh ben ça c'est une chance pour François, parce que François qui voulait nous faire vivre de la participation... j'ai failli le dire, vous avez vu ? J'ai failli le dire, démocratie, verti. Je l'ai pas dit. Qui voulait nous faire vivre de la participation... On s'est dit, bah voilà, c'est une occasion rêvée pour lui. Il a une majorité de ses concitoyens qui lui disent qu'ils ne veulent pas de leur projet, donc il va nous ouvrir les portes de la négociation avec un grand sourire, puisque voilà, enfin, ça y est, il y a un sujet sur lequel il va pouvoir venir discuter avec nous.
Voilà, donc pour résumer, un maire qui se prétend mettre en place la démocratie participative, qui rencontre une opposition énorme dans le village sur un projet qu'il a décidé de façon unilatérale. Et là, vous vous dites, bon, bah, super, vu qu'il prône la démocratie participative, il va nous entendre, on va être entendu. Et alors, que se passe-t-il ?
Eh bah, bien, pas du tout, messieurs, dames. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune marge de négociation ni aucune rencontre possible avec le maire de Saillant sur cette question-là.
Voilà la porte, sort dans le calme. Tu t'es la vallée et sort dans le calme.
Quitte le pouvoir,
C'était Tikenja Fakoli dans le chant des colibris sur Radio 16. Nous parlons démocratie locale avec Tristan Rechid, qui a la chance d'avoir vécu la première vraie forme de démocratie en France. Et c'était il y a seulement 4 ans, en 2014, à Saillant, dans la Drôme. Et depuis, l'expérience du pouvoir pour et par le peuple continue dans ce petit village de Saillant. Ah, comme ça fait du bien de se réapproprier notre pouvoir, car au-delà des belles promesses de démocratie participative, lorsqu'un projet politique nous paraît inutile, voire dangereux, on constate que notre point de vue n'est plus du tout le bienvenu. Eh oui, ce sont les limites de la démocratie participative institutionnelle, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, je vous dis, ça ne veut rien dire.
La démocratie participative.
C'est ça. Donc, fin de non-recevoir du côté du politique. Hein. Aucune entrée, aucune discussion possible. Des présences aux séances du conseil communautaire, mais vous savez quelles sont les présences qu'on nous laisse au conseil communautaire, c'est-à-dire que vous pouvez vous taire jusqu'au bout de la séquence, et éventuellement à la fin, si le président de la séance en est d'accord, vous aurez le droit de vous exprimer pendant quelques minutes à la fin de la séquence. Donc tout ça n'a pas marché, et on a fait d'autres trucs rigolos. Par exemple, on est allé du centre du village jusqu'à l'emplacement du futur supermarché, avec des déambulateurs, des caddies et des poussettes. Est-ce qu'on a des personnes âgées chez nous, on a des enfants en bas âge, et puis faut bien mettre des courses quelque part. Donc on a, comme ça, on a... Alors c'était magnifique parce qu'en plus, le centre commercial était de l'autre côté de la départementale.
Donc vous avez bloqué la départementale.
Même pas du bon côté de la départementale. Donc il faut traverser la départementale. Vous savez que les voitures roulent plutôt à 70-90 à l'heure sur les départementales. Donc il faut arrêter la circulation pour traverser. Donc c'est ce qu'on a fait. On était 250. Et avec une batucada, tout ça, enfin voilà, et avec des médias derrière nous, nos médias locaux. Voilà, donc on a fait ce genre de choses. Et puis, tout ça ne donne rien. Et à un moment donné, il y a des gens dans le collectif qui se disent, tiens, si on allait voir les grandes enseignes. Donc chez nous, les enseignes pas très intéressantes qu'on a, c'est Super U, Intermarché, Casino.
Donc il y en avait déjà des supermarchés à Saillant ?
Non, pas à Saillant.
Mais autour ?
Autour, à Cray et à Die.
D'accord. Et pourquoi vous allez les voir alors, ces grandes enseignes ?
Alors, je vais vous expliquer. Par contre, j'aimerais juste savoir, nous, on n'a pas la chance d'avoir des Auchan et des Carrefour. Est-ce que vous en avez, vous ? Non, non plus ? Ah, vous avez des Carrefour. Vous avez de la chance.
T'es jaloux, hein ?
Oui, j'aimerais. Bah,
Nous,
on n'a pas de Carrefour, nous. Donc, ils sont allés voir les grandes enseignes avec la pétition. Donc, on allait voir les enseignes en leur disant, nous, a priori, vous avez 800 personnes qui n'iront pas consommer chez vous. Et bien, ça a marché, messieurs, dames. Ça a marché et on a compris par la suite... Pourquoi ça avait marché ? En fait, les trois enseignes se sont retirées du marché. Ça a marché parce que aucune enseigne n'avait un intérêt économique à s'installer à 1 kilomètre du centre de Saillant. Par contre, elles avaient un désintérêt économique si une autre enseigne s'installait à leur place, à cet emplacement. C'est-à-dire que de toute façon, ils perdaient du fric. Mais ils perdaient encore plus de fric si une autre enseigne s'installait à cette place-là. C'est-à-dire qu'ils piquaient potentiellement des clients qui allaient habituellement à Cray ou à Die s'approvisionner dans leur commerce. Vous me suivez ? Donc ça se jouait à rien. C'est-à-dire que personne n'avait envie de se mettre là-bas. C'est stupide. Vu la jaune de chalandise que ça représente, c'est stupide d'installer une grande surface à cet endroit-là. Je vous dis encore une fois, on est dans un bled rural. On est 1300 dans ce village et on a des villages beaucoup plus petits qui sont autour. Donc ça n'avait strictement aucun intérêt commercial. Donc finalement, les 3 en 5 se sont retirés du marché et le collectif a pu célébrer sa victoire. Voilà. Alors nous, c'est facile pour célébrer la victoire. Nous, on célèbre à la coup de clairette. Vous célébrez avec quoi, vous, ici?
Ah ouais.
Ah, vous avez pas l'alcool, du coup
Mais non. Nous, on a les châtaignes, on a la crème de marron. Écoute, on fait des tartines.
Putain, vous avez pas un alcool, du coup, du coin? La Carthagène,
ah,
d'accord.
Le public se soulève, révolté, on a oublié la Carthagène. Ah, bah oui,
la Carthagène. Alors, je suis logé, où est-ce que t'es? T'en as de la Carthagène ou pas, toi? Non? D'accord, bon, on boira du vin de noix, des Cévennes.
Bon, alors du coup, le maire François se retrouve tout seul avec son projet de supermarché. Plus aucun supermarché n'a envie de s'installer à Saillant, vu que personne des habitants de Saillant n'a envie d'aller au supermarché. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Donc alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, ça, après une grande victoire. Donc on s'est vu une première fois, on a célébré ça, d'accord? Donc on fait la fête, on célèbre ça, c'est chouette. On s'est vu une deuxième fois pour célébrer ça.
Et après puis, de et nombreuses célébrations,
on s'est vu une troisième fois pour célébrer ça. Et voilà,
ça inspire la clairette, ouais. En fait.
Donc on s'est vu comme ça plusieurs fois pour célébrer ça. Et je ne sais pas si ça fait comme ça dans vos vies. Mais des fois, après une grande victoire, on vit une période de dépression. Voilà. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on se regardait comme ça dans le fond de l'œil. Et puis on se rendait bien compte qu'il n'y avait plus l'énergie du départ. Et on se demandait un petit peu ce qu'on avait encore à faire ensemble. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé la troisième fois où on s'est vu. Parce que c'est ça le démarrage de l'histoire. Donc la troisième fois qu'on s'est vu, en fait, donc on était une petite quinzaine, hein, on n'était plus très nombreux. Et après le premier verre de clairette, il y a Fernand qui arrive. Et Fernand nous dit, les élections municipales sont dans 6 mois, et a priori, François va se représenter. Et a priori, il n'y a pas de liste qui va se présenter en face.
Il n'y a pas d'opposition.
Donc comment vous dire? Le niveau moins 1 de la démocratie serait celui-là. Serait, quelqu'un se présente... Quelqu'un se présente en face, ils sont pas d'accord, et donc ils vous présentent un programme, et puis il faut le voter pour un des deux, voyez? C'est pas la démocratie, ça, hein? D'accord? Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas la démocratie, mais c'est le niveau moins 1 de la démocratie, voyez? Et même le niveau moins 1 de la démocratie, on nous l'enlevait. C'est-à-dire que François se représentait seul, que les Saillançons revotent pour lui, pourquoi pas, je veux dire, c'est pas, après c'est des choix, mais qu'il passe parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'était insupportable comme idée. Donc je vous raconte pas comment ça a cassé l'ambiance de cette première réunion qui démarrait donc avec ce premier verre de clairette, donc ça nous a un peu scié les pattes. Deuxième verre de clairette, quelqu'un qui essaye de réagir du coup et qui nous dit faudrait faire la démocratie participative. Je suis obligé de le redire parce qu'il l'a dit comme ça. Donc là on est quelques-uns à dire ça veut rien dire, démocratie participative, Ségolène Royal nous l'a fait, François nous l'a fait, ça suffit, arrêtez avec ces mots-là, machin. Et puis à la fin du deuxième verre de clairette, il y a quelqu'un qui dit on va pas le dire, on va le faire.
Ah, ça devient intéressant.
Troisième verre de clairette. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, la proposition qui sort, c'est on va organiser une réunion publique et on va se présenter devant les gens en disant qu'on n'a ni programme ni candidat. Alors, au troisième verre de clairette, ça fait un drôle d'effet. Vous voyez? Donc là, il y a la moitié de l'assistance qui est sortie et en gros qui nous disait on va encore passer pour des débiles, quoi. Hein, vous arrêtez avec vos projets débiles. Voilà. Donc, sur une soirée comme ça, ça peut s'arrêter là, vous voyez? Hein, on s'est dit ça. Ah, il y a déjà des départs, dis donc. Salut. Donc on peut s'arrêter là, sauf que là on s'est pas arrêté là, on a décidé de faire vivre cette idée là. Donc on s'est revu à quelques-uns et on a effectivement organisé cette première réunion publique qui a eu lieu 3 ou 4 semaines plus tard. Donc la réunion publique a eu lieu, 120 personnes sont venues à cette réunion publique. 120 personnes fait beaucoup, hein. On est toujours 1200, hein, vous vous rappelez? Comme échelle, voilà, 10% de la population qui se déplace. Alors c'est pas parce qu'on est des, c'est pas parce qu'on est très bon en communication, c'est parce que on est à 5 mois des élections municipales et qu'il y a le bruit qui court dans le village et nous on fait courir ce bruit-là aussi, qu'il y a une liste qui va se présenter en face de François. Et dans un village de 1200 habitants, les gens vont voir qui se présente face à François. D'autant que François, je voulais pas décrire encore une fois, François, il est maire de Saillant, il est vice-président ou président de la communauté de communes. Il est conseiller général et il va se présenter au sénatorial. Non. Pour moi, alors c'est comme ça que j'analyse la situation, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, je pense que François a tellement de compétences qu'il veut en faire profiter, et comme il est très généreux, il veut en faire profiter le nombre de concitoyens le plus large possible. C'est pour ça le cumul des mandats. C'est juste pour ça, c'est parce que c'est des gens qui sont très brillants. Donc ils veulent en faire profiter du coup de leur vision le nombre le plus large de leurs concitoyens. Donc moi c'est comme ça que j'analyse la situation. Donc voilà, donc on se présente quand même face à, vous voyez, pas complètement le premier Pékin venu, quoi. C'est quand même quelqu'un qui est en train de cumuler et qui est en train de devenir un vrai politicien, quoi. Comme on les aime. Donc les gens viennent à 120 et lorsqu'ils rentrent dans la salle, ils s'attendent tendent à avoir une disposition un peu classique avec des gens qui sont sur une estrade et puis la plèbe en face. Ah, on va faire ça comme ça. C'est-à-dire que nous deux, là, on est les gens qui savent et vous êtes la plèbe. D'accord ? Vous ne savez pas. Nous, on sait. C'est rassurant hein, pour vous hein, d'avoir des gens en face de vous qui savent. D'accord ? Donc les gens s'attendent à une configuration comme celle-là puisque c'est celle-ci qu'on propose habituellement aux gens. Et ben ils ont été un peu surpris parce que c'était pas du tout comme ça qu'était configurée la salle. Lorsque les gens sont rentrés dans la salle, vous pouvez vous rendre compte en rentrant dans la salle qu'il y avait 8 cercles de chaises. Et à l'intérieur de ces 8 cercles de chaises, il y avait 2 animateurs, 2 personnes qui attendaient. Voilà. Donc lorsque les gens sont rentrés, lui il revient. Lorsque les gens sont rentrés, on leur a demandé quels étaient le sujet sur lequel ils souhaitaient réfléchir pendant les 2h30 de rencontre. Et ils avaient le choix entre 7 sujets. 8 sujets en fait. Les 7 premiers sujets sont les 7 grandes compétences qu'on retrouve dans les communes de notre taille. Certaines ont déjà disparu hein, depuis 2014. Donc on avait économie, qu'on n'a plus. On avait santé sociale, on avait éducation, on avait environnement, on avait voilà. Donc toutes ces thématiques-là qu'on retrouve dans les communes de notre taille. Et une huitième commission qui s'appelait développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc l'idée c'était, dans chacune de ces commissions, les gens venaient s'installer et dans chacune de ces commissions, l'idée était de faire un diagnostic du village. Donc ils ont fait ce diagnostic pendant une heure et demie. Et à la fin du diagnostic, on a demandé sur chacune de ces tables aux gens de déterminer des orientations pour un futur programme. Vous voyez le principe ? On fait d'abord un diagnostic, on voit ce qui fonctionne moins bien dans notre village, et ensuite on détermine des orientations pour un éventuel futur programme qui répond au diagnostic qu'on a établi dans le village. Les gens ont fait ça pendant une heure et quart, donc plus les orientations, ça dure à peu près 2 heures. Et les semaines qu'on suivit dans le village ont été...
Effervescente.
On a senti qu'une véritable émotion chez les habitants. Quoi. Nous, on avait juste prévu de faire une réunion, vous voyez, au départ.
Mais vous l'aviez quand même bien organisé parce qu'il y avait tous ces ateliers. Ouais. Ces... Ouais.
Et finalement, on a été contraints, on a été poussés par les habitants pour en faire une deuxième. Vous voyez, on n'a pas vraiment eu le choix, en fait. Les habitants ont vraiment... Ils ne sont pas sentis concernés, ils n'ont pas senti qu'on les faisait participer à quelque chose. Ils ont créé par eux-mêmes. Il ne s'agit plus de faire participer les gens. Il s'agit de faire en sorte que ça soit les gens qui fassent. Donc c'est là qu'il faut que je vous donne du coup un élément. La phrase emblématique de tout ce que je vous raconte pourrait être la suivante. Ça pourrait être de dire que le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. Voilà. Le politique, c'est l'habitant. C'est à l'habitant de définir quelle est sa vision, une vision collective pour le développement de son village. C'est absolument pas l'élu de le faire. L'élu, il est là pour porter cette vision collective, la faire en sorte que les habitants la travaillent et ensuite la porter dans l'instance exécutive, à savoir le conseil municipal.
On peut peut-être en profiter pour rappeler que la politique, étymologiquement, c'est la chose publique et donc c'est ce qui concerne tout le monde. Et que du coup, c'est bien étonnant qu'on s'en soit délesté comme ça au profit de quelques-uns dont c'est devenu le métier, alors que c'est censé être un sujet qui concerne vraiment tout à chacun. C'est à nous tous de décider ce qu'on veut faire de notre territoire.
Donc on arrive du coup à cette deuxième réunion publique. Donc une deuxième réunion publique s'organise et la deuxième réunion publique, 90 personnes arrivent. Alors je sais pas à l'aise, mais nous à Saillant, 90 c'est plus que 120.
C'est-à-dire...
Non, pas chez vous. Non, d'accord. Ouais, ça étonne souvent les gens. Dans les 120 personnes de la première réunion, on a eu des curieux qui sont venus. À la deuxième réunion, c'est pas des curieux qui venaient. Hein. Les gens savaient qu'on était en train de faire un programme. Donc 90 personnes viennent à cette deuxième réunion et dans ces 90 personnes nous définissent 66 projets pour le village. Donc la question qui leur a été posée en fait pendant cette réunion, donc toujours avec des outils d'intelligence collective, c'était de déterminer sur la base du diagnostic et des orientations, de déterminer des projets prioritaires pour le village. Donc ils ont déterminé 66 projets prioritaires pour le village. Ensuite on leur a donné, alors c'est là où rentrent en jeu un outillage technologique extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut que vous dotiez de gommettes. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est que les gommettes, ce sont des petites pastilles collantes de couleurs différentes. Donc on a donné 10 gommettes à chacun des participants, on a affiché les 66 projets tout autour de la salle et on a demandé aux gens d'aller voter pour les projets qui leur paraissaient prioritaires. Et on a tiré comme ça 30 projets prioritaires pour le village. Ces 30 projets ont composé stricto sensu le tract de campagne de la liste qui est en train de se former. Donc là, je suis en train de vous raconter que le premier pari qu'on avait posé, c'était qu'on se présentait sans programme et qu'on allait le faire avec les gens. Donc ce premier pari, en 2 réunions de 2h30, est rempli. On a un programme. Deuxième pari, il nous faut des candidats, puisqu'on se présentait sans candidats. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait passer des feuilles d'émargement sur chacun de ces 8 groupes pendant les deux réunions. Et il y avait 3 cases possibles à cocher. La première case, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, je ne reviendrai plus. Deuxième case, ça m'intéresse, tenez-moi au courant. Troisième case, ça m'intéresse tellement que je souhaite rentrer sur la liste. 19 personnes ont coché la troisième case, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des gens viennent à une réunion et d'un seul coup, ils se disent, tiens, je vais passer 6 ans de ma vie à m'occuper des affaires municipales. Moi, je trouve ça absolument hallucinant. 19 personnes qui, en sortant de la réunion, de la première et de la deuxième, se sont dit, punaise, cette aventure-là, elle m'intéresse et je vais consacrer 6 ans de ma vie à gérer les affaires de mon village. Je sais pas si là, on n'a pas trouvé un moyen de contribuer à, vous voyez, à la rotation d'une nouvelle classe politique qui pourrait se mettre en route. Donc 19 personnes, il y en avait déjà 3 dès la première réunion, 3 candidats qui étaient déjà présents à la première réunion. Donc 19 et 3, ça fait 22. Nous avons 22 candidats, il nous en faut que 15. Mince, on en a trop. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de 22 à 15 et surtout comment est-ce qu'on fait pour passer à une tête de liste? Nous avons fait ce qu'on appelle une élection sans candidat, sans même savoir ce que ça existait. Donc je sais que je suis avec les Colibris, donc vous savez par cœur ce que c'est qu'une élection sans candidat. Mmh. Pour ceux qui ne savent pas, une élection sans candidat va consister à, premièrement, à définir les qualités qu'on attend d'une tête de liste. Donc chez nous, les qualités qu'on attend d'une tête de liste, c'est des qualités d'écoute, de médiation et d'empathie. Vous voyez, c'est les principales qualités qui sont sorties du travail qu'on a fait. Vous voyez, c'est pas exactement les qualités en général qu'on attend d'un maire, vous voyez. On attend plutôt quelqu'un qui a une pensée complexe, qui a une vision pour son village, qui a une réponse à tout. Comment faire garder votre chien, votre enfant, comment gérer les problèmes de voilà, etc., etc. Donc nous, c'était pas tellement quelqu'un qui avait une réponse à tout, c'était plutôt quelqu'un qui avait une capacité d'écoute, d'empathie et de rassemblement. Donc une fois que vous avez posé la question de quelle qualité vous attendez, vous demandez ensuite aux 22 candidats, c'est ce qu'on a fait, les 22 candidats qui étaient présents, on leur a demandé d'après vous, qui rassemble, qui se rapproche le plus de ces qualités attendues. Vous voyez la petite différence entre faire ça et demander qui veut être tête de liste? Est-ce que chacun a déjà repéré le grand mâle blanc dominant qui était à l'intérieur de lui-même? Le grand mâle blanc dominant qui est à l'intérieur de vous-même? Vous avez tous quelqu'un qui hurle normalement plus ou moins fort en fonction de votre passé, de votre vécu, de votre éducation. Vous avez quelqu'un qui hurle à l'intérieur et qui vous rend absolument insupportable en réunion. Et en général, les gens qui sont avides de pouvoir, bien souvent, sont des gens dont le grand mâle blanc dominant est très en éveil. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un besoin de reconnaissance qui est très très présent. Donc nous, on va pas donner, effectivement, on va pas demander qui veut le pouvoir, parce que potentiellement, ça va faire renaître, vous voyez, ce type de choses. Donc on demande aux 22 de voter pour la personne qui, d'après elle, correspond au plus aux qualités qu'on a attendues. Donc c'est Vincent qui a été choisi, puisque Vincent, effectivement, après les 6 mois de campagne, semblait répondre au mieux aux qualités qu'on attendait. Donc c'est comme ça qu'on a choisi notre tête de liste. Et je vous ai un petit peu menti, c'est qu'on n'était pas 22 ce soir-là, il y avait pas, les 22 candidats n'étaient pas là, parce que Vincent est veilleur de nuit. Donc Vincent n'était pas là ce soir-là.
Donc il a appris donc, en sortant du boulot.
On lui a envoyé un texto à 22h35, on lui a envoyé un texto pour lui dire que c'était lui la tête de liste. Voilà. Alors, il était d'accord, hein. Il nous avait dit qu'il serait d'accord, il savait ce qu'on faisait ce soir-là, et qu'il nous avait dit que si ça tombait sur lui, il était d'accord pour assumer le poste, mais il n'était pas là. Voilà, donc on se présente, du coup on a un programme et j'ai l'impression qu'on a des candidats, messieurs, dames. Je pense que nous avons réussi à remporter notre pari, à savoir de faire un programme avec les gens qui étaient présents, donc avec les habitants de Saillant, et de faire une liste issue des gens qui se présentent dans ces réunions. C'est-à-dire avec des gens qui, a priori, ne sont pas d'accord sur tout. Ce n'est pas une bande de potes, ce sont des gens qu'on ne connaissait pas et qui ne se connaissaient pas entre eux et qui ont décidé de monter une liste ensemble.
Fait son beurre, on ne partage rien, à part sa mauvaise humeur, mais il faudra bien oublier nos peurs, si l'on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs, chacun pour soi, ça va de soi, chacun ses bons plans, évidemment, il faudrait faire un petit effort, pour que les choses s'améliorent, si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble, ensemble. Vivre mais ne fais pas le bonheur. C'est écrit dans les livres. Tu dis ma petite sœur, il faudrait penser autrement qu'individuellement. Oubliez le monnaie d'échange, si on veut que les choses changent ensemble. Un plus, ça donne envie d'écouter, de se mettre à leur côté. Les autres ne sont qu'un miroir où il faut savoir se voir. Apprenons à regarder ensemble sans tarder. Ensemble, en plus, un plus, un plus, tout le monde. Ensemble, en plus, un plus, un plus, toi et moi. Ensemble, un plus, un plus, un plus.
Ensemble, c'était Sinclair dans le chant des colibris sur Radio 16. Alors, gouverner ensemble, exercer pour la première fois la démocratie au sens propre du terme, c'est-à-dire le pouvoir pour le peuple et par le peuple, ça fait tout drôle, dis donc, quand on s'y met. Et ça fait du bien aussi. Alors, à Saillant, dans la Drôme, les habitants l'ont fait et ils continuent de le faire. Et nous, quand est-ce qu'on s'y met ? Pour nous y aider, Tristan Réchid, qui a participé à l'élaboration de cette liste citoyenne à Saillant, nous raconte.
Tout ce petit groupe-là, donc, voilà, fait campagne, etc. Et nous gagnons dès le premier tour. Alors, il y avait que deux listes. Donc, forcément, on gagne au premier tour, vous voyez, à moins de faire 50-50 pile poil, mais j'aime bien le dire comme ça. Nous avons gagné dès le premier tour, messieurs, dames, avec 58% des suffrages et 80% de participation. Voilà, vous pouvez faire. À la radio, ça passe comme ça. Non, mais c'est énorme. 58% des suffrages, 80% de participation. Un monde fou dans la cour de l'école. Dans les petites communes rurales, on fait le dépouillement dans les écoles. Vous voyez, parce qu'on n'a pas de grands bâtiments. Et ça donne cette victoire-là. Je passe sur les détails de la bringue qui a suivi la victoire.
Et sur les X verres de Clairette.
Voilà. Donc la liste gagne, c'est complètement incroyable pour nous. Quand je vous raconte le démarrage de l'histoire avec ces 15 personnes qui sont à leur troisième verre de clairette, il y avait un qui dit bah tiens, on se présente, on dit aux gens qu'on n'a pas de programme, pas candidat. On était très très loin d'avoir dans l'idée qu'une liste participative allait pouvoir gagner des élections municipales avec cette dynamique-là. Vous voyez, on est dans une commune rurale, ça a surpris les gens et ça a choqué les gens de se présenter sans programme ni candidat. Mais tout ça, là, on l'a emporté, et je vous raconterai pas du coup là tout de suite comment ça fonctionne, mais en gros, pour vous le faire schématiquement, il y a des listes comme ça un peu qui sortaient un peu de nulle part, qui se sont retrouvées au pouvoir et qui ont eu une sorte de sueur froide au lendemain des élections, parce qu'ils se sont dit oh là là, pff, mince, maintenant c'est à nous, c'était une blague, voilà. Nous, c'était pas du tout une blague et on était très très près. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pendant la campagne, c'est ce que nous allions faire pendant les six ans de la mandature. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons toujours avec ces 8 cercles, d'accord ? C'est 7 cercles qui correspondent à des compétences de la municipalité. Il y a 8e cercle qui s'appelait le Conseil des Sages et qui s'appelle aujourd'hui l'Observatoire de la Participation. Et nous fonctionnons toujours de cette manière-là, avec des habitants qui font des diagnostics, qui font émerger des projets prioritaires, et des élus qui viennent travailler avec des habitants ces projets prioritaires, et qui, dans leur assemblée exécutive, à savoir au conseil municipal, font adopter les décisions qui ont été travaillées à la base par des habitants.
Merci Tristan de nous avoir relaté toute cette histoire. Je me posais quand même une question parce que ces premières réunions qui ont eu lieu, comme tu nous l'as expliqué, elles reposaient sur l'utilisation d'outils d'intelligence collective. Comment vous avez eu l'idée d'amener ces outils-là dans les réunions pour que justement vous puissiez composer ces cercles de travail, etc.
L'idée, c'est juste la pratique et je pense que vous avez tous vécu et eu des pratiques de réunions pas très positives. Où il y a des prises de pouvoir, où ce sont toujours les mêmes qui parlent, où on est sur des combats de coq, des combats d'ego. Donc je vous parle de ce grand mâle blanc dominant, c'est ce grand mâle blanc dominant là qui reprend sa place de manière naturelle. Alors est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est lié à notre éducation? Bon, en tout cas c'est très très présent dans toutes nos réunions. Et je suis en train de vous raconter que si vous voulez supprimer le pouvoir d'un seul ou le pouvoir de quelques-uns, et que vous voulez vous mettre sur une structure de gouvernance horizontale ou partagée, il va falloir que vous mettiez en place un processus extrêmement rigoureux pour le faire.
Mmh.
Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de règles, c'est la place pour tous les égaux et pour toutes les prises de pouvoir. Voilà. Et donc, il y a des outils, il y a des outils d'intelligence collective, il y a des processus qui ont été inventés, qui sont testés, qui sont approuvés, qui fonctionnent, quels que soient les milieux, dans le monde de l'entreprise. Sachez que le monde de l'entreprise est bien en avance sur le monde associatif, sur tous ces processus-là.
Mmh.
Et la petite nouveauté que je vous amène ce soir, c'est de vous dire que ces processus fonctionnent dans le monde de l'entreprise, c'est prouvé, dans le monde associatif, c'est prouvé. Pourquoi pas à l'échelle d'une commune ? Voilà, c'est juste de se dire qu'on peut aussi faire fonctionner une municipalité avec ces processus-là.
Est-ce que tu peux nous citer les noms de ces processus, quelques-uns, pour si les gens ont envie de rechercher un petit peu là-dessus ?
Il y a plein d'outils, mais les outils de base qu'on a utilisés sont des outils où j'avais tous joué déjà des fois avec des post-it. Donc, le premier outil de base qui est le métaplan, qui consiste à écrire une idée individuelle et de voir comment ces idées individuelles convergent. Et donc de faire ensuite des patates, des bulles avec des thématiques dominantes. Ça, c'est une première manière de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, d'une idée individuelle à une idée collective. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que tout processus de participation passe forcément par la mise au clair des intérêts individuels de chacun. Vous savez, il y a souvent des gens qui disent « Oh, cette réunion, c'était pas intéressant parce que les gens nous ont parlé de leurs problèmes personnels.
»
Mais bien évidemment que les gens parlent de leurs problèmes personnels.
Et d'ailleurs, ça commence par là.
Et tout commence par là. Mmh. Des gens qui viennent portés par l'intérêt général, moi, ça me fait peur.
Mmh.
Voilà, c'est pas ça que je demande aux gens qui viennent discuter sur un sujet. Je leur demande de s'exprimer en fonction de leur place, de là où ils sont, et de dire ce qu'ils pensent du sujet, en quoi ce sujet est un problème pour eux. Mais pas en quoi ce sujet est un problème pour la population. Qui peut parler au nom d'une population, au nom d'un quartier, au nom d'un groupe? Voilà, je ne reconnais aucune légitimité de ce point de vue-là. Donc évidemment, tous ces processus permettent de passer de l'intérêt et de la pensée individuelle à l'intérêt et à la pensée collective. Voilà, ces processus permettent de faire ça. Donc passer par une phase de divergence, du coup, d'émergence d'idées, à une phase de convergence qui nous permet de converger ensuite vers une idée sur laquelle l'ensemble du groupe va se mettre d'accord.
Donc on comprend vraiment l'importance de découvrir ces outils-là, de se former à ces outils d'intelligence collective. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs demain avec toi en atelier. Merci d'être là pour ça et de nous transmettre un peu les outils que vous utilisez. On peut peut-être parler de l'Université du Nous, qui est aujourd'hui un peu une référence dans la matière des outils d'intelligence collective. Qu'est-ce que tu en penses, Tristan ?
Oui, allez vous renseigner. Alors, j'ai suivi une formation avec eux, mais je ne permettrai pas de parler de l'Université des Nous parce que je ne suis pas...
Bon, aujourd'hui, de toute façon...
Je suis pas habilité pour ça, mais en tout cas, allez voir du côté des outils de sociocratie, d'holacratie. Donc, je vous balance un peu des gros mots maintenant, mais... Regardez du côté de la sociocratie,
l'holacratie avec un H, holacratie. Voilà.
Et effectivement, l'Université du Nous propose des formations intéressantes qui viennent combiner toutes ces approches-là.
Donc aujourd'hui, juste pour faire un dernier point sur où tu en es avant que notre émission touche à sa fin, maintenant tu es en train de faire une tournée dans la France entière en vue des municipales de 2020, voire 21 maintenant, pour essayer justement de transmettre ces outils-là dans les territoires locaux et faire en sorte qu'il y ait des listes citoyennes qui émergent, c'est ça ?
Ouais. Alors, je vous invite à vous recentrer sur la question essentielle. La question n'est pas de savoir si oui ou non vous allez vous lancer dans une démarche de liste participative, la question est de savoir quand.
Bon, alors, c'est bon, le message voilà. Est passé.
Donc de toute façon, l'ensemble des communes après-demain, je ne vais pas dire demain, mais après-demain, seront gérées de cette manière-là. Les partis politiques sont morts, Notre système représentatif est mort. Tous les politologues un peu à la page vous parlent d'hiver de la démocratie représentative. On est à la fin de ce système. Donc, je ne vois plus qu'une seule voix. C'est cette, la voix dont je viens de vous parler. Donc, ne vous embrouillez pas, vous posez la question de savoir si vous voulez y aller ou pas. Hein. Juste la question de quand. Donc, ça peut être 2026, ça peut être 2032, ça peut être 2038. Décidez, mais c'est la seule question que vous avez à vous poser. Le reste n'a strictement aucun intérêt. Vous allez y venir. De toute façon.
Il est grand temps, ouais. Merci beaucoup, Tristan, pour ton intervention.
Pour plus d'infos sur le travail de Tristan Rechid et sur la véritable démocratie, c'est-à-dire exercée pour le peuple et par le peuple, vous pouvez aller donc sur le site de Tristan qui se nomme Démocratie Vivante au pluriel. démocratievivanteaupluriel.com. Et en ce qui concerne la prochaine soirée des Jeudis des Colibris, elle aura lieu le 21 décembre pour le solstice d'hiver. Nous accueillerons à ce moment-là Delphine L'Huillier qui va nous présenter le Wutao. Alors le Wutao, c'est une pratique d'écologie corporelle basée sur le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. L'objectif, c'est de renouer avec l'intelligence du corps pour mieux l'habiter. Alors voilà, une soirée de solstice d'hiver tout en mouvement ondulatoire. Rendez-vous pour ça à 19h à la boutique solidaire de Rochebelle, donc le 21 décembre. C'est au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. La participation est libre et consciente. La collation coûte 5€. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne révolution intérieure pour être toujours plus nous-mêmes en profondeur.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.